Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La problématique de la passation des marchés publics en RDC. Le système des marchés publics congolais présente des faiblesses parmi lesquelles on dénote l'absence de la redevabilité, le favoritisme, l'opacité et la fraude. Pendant que 70% des dépenses de l'État sont relatives aux marchés publics, selon les experts de la Cour des comptes. Quelle est la procédure à suivre en matière de passation des marchés publics? Quelles en sont les infractions et peines qu'on encourt? Comment la faute en est-elle réprimée en droit congolais? Droit et citoyenneté se penchent sur cette problématique. Jeff Ngoyi Mulonda coordonne et présente cette émission. Bienvenue à tous. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs s'intéresse aujourd'hui à la problématique de la passation des marchés publics en RDC. Nous recevons le juge consulaire au tribunal de commerce. Emmanuel Fauchy définit les marchés publics selon la loi irrelative avant d'en expliquer la procédure.
Le marché public, de façon beaucoup plus simpliste, c'est un marché qui est fait par l'appel d'offres. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil dans la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, les législateurs donnent une définition à ce qu'on entend par le marché public. Et la définition donnée par les législateurs, le marché public signifie un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s'engage envers l'autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles moyennant un prix. Ça, c'est la définition du marché public donnée par les législateurs. Donc, le marché public, c'est un marché, en bref, qui s'est fait par appel d'offres. Selon la loi, il y a plusieurs phases. Il y a des phases préalables à la commande ou même à l'offre comme telle. Il y a des préalables, puisque lorsque on doit passer commande, la commande doit obéir à certains critères, certaines conditionnalités, notamment l'identification des projets, l'évaluation de l'opportunité, l'intégration des besoins dans le cadre d'une programmation budgétaire, la disponibilité des crédits, la planification des opérations de mise en concurrence, le respect des obligations de publicité et de transparence. Donc, lorsque on répond déjà à cela, on va passer en ce moment-là à la passation de marché même. Les marchés publics, comme je vous le disais, sont passés par appel d'offres, mais ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré, dans les conditions définies dans la loi même relative à l'organisation de marchés publics.
Est-ce que la procédure de gré à gré, elle est transparente?
Bon, le marché de gré à gré est prévu par la loi. C'est un marché d'entente directe, c'est un marché que l'on peut faire sans appel d'offres. Il y a appel d'offres, par exemple, au vert, qui exige que toute personne intéressée par le marché puisse soumettre, puisse faire ses propositions, puisse poser sa candidature. Donc, c'est pour de grands travaux, c'est pour de montants importants. Mais lorsqu'il s'agit des montants restreints pour le marché concernant par exemple 50 000 dollars, 40 000 dollars, on ne fait pas l'appel d'offres. On peut faire le marché de gré à gré ou entente directe. Mais cela doit nécessairement être autorisé par l'autorité de régulation et de contrôle des marchés publics. Mais ce marché-là a des conséquences, puisqu'il y a des gens qui en profitent. Il y a des autorités contractantes qui en profitent. Vous voyez, par exemple, le marché de 50 000 dollars. Si on en conclut 10, on a déjà 500 000 dollars. On a 500 000 dollars, c'est important. Ça aurait dû être l'objet d'un marché public passé par l'offre. Donc, l'inconvénient de marché de gré à gré et qu'il favorise d'une manière ou d'une autre les détournements. Il favorise la corruption. Il favorise les conflits d'intérêts. Puisque ces marchés-là, lorsqu'on les fait, comme il est d'entente directe, parfois c'est l'autorité contractante. Donc vous allez voir par exemple le directeur général qui va placer cette commande-là auprès de son ami, ou bien c'est lui-même qui fait ce commerce par la personne interposée, soit son enfant, soit son épouse, soit son frère ou son ami. Et il y a des effets de retour, donc des bonus qui reviennent. Alors les gens recourent au marché de gré à gré pour pouvoir s'enrichir, puisqu'ils vont obtenir des commissions plantureuses, ils vont obtenir des bonus de signature. Parfois même c'est pour leurs affaires, afin de pouvoir booster leurs propres affaires. C'est ainsi que l'autorité de régulation devrait sérieusement veiller à cela. Mais comme la corruption parfois s'est infiltrée dans toutes les structures du pays et à plusieurs niveaux, vous voyez, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, la corruption est là. Donc c'est ainsi que, comme il y a impunité, nous sommes très contents du fait que le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, combat la corruption et considère la corruption parmi son cheval de bataille.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
L'émission Droit et Citoyenneté se penche aujourd'hui sur la problématique de la passation des marchés publics en RDC. Nous recevons le juge consulaire au tribunal de commerce, Tricom, Emmanuel Fauchy.
Il y a une variante de marché public qu'on appelle marché de gré à gré. C'est un marché public, mais qui signifie entente directe. Donc pour le marché de gré à gré, il n'y a pas appel d'offres. Donc celui qui est l'autorité contractante du marché veut acheter par exemple 500 chaises pour son entreprise. Ça coûte par exemple 10 000 dollars. Donc pour ce marché-là, il ne fait pas l'appel d'offres. Il contacte directement les fournisseurs. Bon, ils s'entendent sur les prix, sur les modalités de livraison et ils payent le prix qu'on lui fournit. Donc c'est une exception pour parer au plus pressé et pour les montants bien déterminés par les législateurs ou par l'autorité des contrôles et des régulations de marché public. Concernant les sortes de marchés public, comme vous l'avez dit. Nous avons plusieurs sortes de marchés publics selon la nature du marché. Il y a le marché public des travaux, le marché des travaux, les travaux de génie. Lorsqu'on veut, par exemple, construire une route, un immeuble pour abriter les services, par exemple, de l'Assemblée provinciale ou de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. Donc, ces travaux-là nécessitent le marché. Et c'est un marché qui doit être fait sur base de l'appel d'offres. Donc, marché des travaux, il y a le marché des fournitures. Nous avons parlé des cas de véhicules, par exemple, qu'on peut donner au ministre, bien les véhicules pour les représentants du peuple au niveau provincial. Donc, des marchés des fournitures, il y a marché des services et les marchés des prestations intellectuelles. Ça fait partie des types, donc des phases d'exécution en ce qui concerne la passation de marché.
On commence d'abord par l'appel d'offres.
Oui, on fait l'appel d'offres. Il faut qu'il y ait d'abord les contrats. Vous voyez, l'autorité contractante qui envisage, qui a besoin, par exemple, de construire des routes, qui a besoin d'avoir des fournitures, les bureaux, les tables, les chaises, donc le mobilier, ou le matériel des bureaux, le matériel roulant. Alors, c'est celui-là qui détermine les modalités. Vous avez vu dans la définition donnée par les législateurs en ce qui concerne le marché public, il vous dit que c'est un contrat écrit. Ce contrat-là doit être écrit puisqu'il doit préciser les types, donc les conditions, les critères, afin qu'au moment de dépouillement de l'offre, que l'on puisse voir quel est le candidat qui a présenté les conditions économiquement les plus avantageuses. Et selon les critériums de préférence nationale ou régionale. Maintenant, dans la phase de son exécution, il y a des fragmentations.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Pour illustrer ce dont nous parlons, nous avons échangé avec l'Autorité des régulations des marchés publics, ARMP, dont nous vous proposons l'entretien avec le président du conseil d'administration. Claudie Moulé-Millois sort d'une réunion d'évaluation du système de passation des marchés avec quelques délégations des ministères et de la société civile.
Bonjour madame, monsieur de la presse. En fait, nous venons de tenir une réunion du comité de pilotage dans le cadre de suivi donc de l'évaluation qualitative du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, selon la méthodologie MAPS 2. Il s'agit effectivement donc de réunir les différents acteurs pour évaluer le système dans la réforme des marchés publics. Donc pour votre information, c'est la troisième fois qu'on évalue le système de passation des marchés publics. Mais la nouveauté, c'est que les évaluations précédentes ne tenaient compte que des aspects du fonctionnement et des procédures. Mais cette fois-ci, nous avons évalué le système de passation des marchés publics avec un consultant qui a été désigné à cet effet, qui a accompagné. Mais la restitution de ce travail qui a été fait sur le terrain avec différents acteurs nécessite un comité qui suit l'exécution de cette évaluation à travers quatre piliers. Donc, non seulement donc, nous avons revu en place ces devoirs, les cadres légal et réglementaire, ça a déjà été fait, les cadres institutionnels, ça veut dire que les organes de passation des marchés publics et les procédures de passation des marchés publics, et puis enfin le quatrième pilier sur la perception ou la rédivabilité par rapport aux bénéficiaires, par rapport à la société civile, pour voir l'interaction. Qu'est-ce que les gens pensent réellement? Parce que la finalité de la réforme, c'est pour améliorer réellement et que ça profite aux Congolais, qu'ils puissent se sentir à l'aise de commencer une affaire, de savoir comment ils peuvent présenter donc leur offre, comment, si leur offre n'était pas retenue, comment ils peuvent se plaindre. Et pour les décideurs, de dépenser l'argent public selon des normes établies sur le plan international. C'est ainsi que vous avez vu ici, dans le cadre de ces comités de pilotage, qui est représenté, j'en assume donc la présidence, avec un représentant donc de la primature et des représentants donc du secteur public, notamment donc des représentants du ministère des Finances, du ministère du Plan ainsi que du ministère des Budgets, mais également du secteur privé. Donc nous avons vu des représentants du secteur privé et du secteur de la société civile. Donc la plupart des gens ignorent effectivement que la réforme des marchés publics est une réforme majeure. Donc vous êtes ici à l'Autorité de régulation des marchés publics, qui est donc l'organe qui s'occupe de la régulation de tout le système. Donc nous avons donc cette responsabilité de par la loi et nous l'assumons en collaboration. L'idéal du système, ce n'est pas que chaque organe fonctionne d'une manière autonome, mais que chaque organe fonctionne en collaboration avec les autres pour une interaction. Donc ce n'est pas effectivement, le législateur n'a pas voulu qu'il y ait différents chefs à certains endroits, mais plutôt plusieurs structures qui collaborent, qui interagissent afin que réellement nous puissions dépenser l'argent public selon des normes reconnues.
Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion?
C'est un comité de pilotage pour adopter effectivement donc, le rapport d'évaluation qui a été lancé avec l'appui des partenaires. Et ce comité de pilotage donc, revoit ce qui a été fait. Donc, c'est un devoir. Actuellement, nous sommes au niveau donc, du rapport et le rapport final sera adopté à travers un atelier qui sera encore ouvert au public au mois d'octobre. Là, le comité de pilotage donc, a apprécié l'évaluation du travail qui a été fait sur le terrain. Le rapport préliminaire qui a été présenté par les consultants avec la collaboration de tous les autres acteurs et décidé donc, du chronogramme, comme je vous ai dit, par rapport à la présentation finale au public au mois d'octobre. Il y aura une autre réunion du comité donc de pilotage mi-septembre.
Comment appréciez-vous la passation de marché?
Une chose d'abord, par rapport à l'évaluation en soi, ce que je dis, que c'est une évaluation dans un processus participatif. À ce point ici, donc en ce jour, ce rapport n'est pas encore adopté. Donc je ne peux pas vous donner donc, les résumés de ce rapport. Mais je vous dis le processus. C'est que cette évaluation essaye d'analyser les faiblesses de notre système et ses qualités. Nous avons donc des qualités. On vous a dit, nous avons un cadre légal et réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui ont été mises en place, nous avons les institutions qui ont été mises en place, nous avons effectivement des organes qui assurent la passation des marchés, donc qui pratiquent, il y a des entreprises, vous pouvez voir à gauche, à droite, mais également il y a la rédivabilité, il y a la société civile qui parle. Quand on voit par rapport à tous ces éléments-là, ça existe. Il y a des qualités et des faiblesses. Maintenant, ce rapport fait ressortir ces éléments et dans ce processus, au mois d'octobre, vous verrez tout le détail, il y a plusieurs détails, comment améliorer ce système. Mais le cadre légal et réglementaire existe, ainsi que les institutions. Donc nous avons des éléments et nous pensons réellement donc améliorer par rapport à tout ce que nous avons et l'apport de tout le monde.
Que pensent les délégués de la société civile et du ministère du plan des faiblesses que constitue le système des marchés publics congolais? Comment les corriger? On écoute une de ces déléguées, Madame Numbi Odile, qui sort d'une réunion d'évaluation du comité de pilotage avec l'ARMP.
Bon, il ressort une réforme que nous devons faire par rapport à l'évaluation du système de marchés publics.
Comment comptez-vous réformer les marchés publics?
Nous sommes encore en stade de prise en contact et le reste viendra.
Avez-vous quelques principes sur lesquels vous vous êtes mis d'accord?
Oui, par rapport aux faiblesses que nous retrouvons au marché public et dans les passations avec les gré à gré.
Quelles sont les faiblesses?
Les faiblesses, je pense que, il y a premièrement l'incapacité du personnel de l'administration et puis il y a aussi la fragilité des arrangements institutionnels pour assurer la crédibilité du marché public.
Y a-t-il quelques stratégies pour relever toutes ces faiblesses, pour y mettre fin?
Évidemment qu'il y en a. Prochainement, nous pouvons en parler.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
La problématique de la passation des marchés publics en RDC, nous en parlons dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. Nous recevons à présent le parquet financier près la Cour des comptes, dont l'avocat général Léon Katanga évoque le rôle du parquet financier en matière de fonds publics, les incriminations ainsi que la sanction pénale qu'encourt quiconque violerait la loi y afférente.
D'emblée, je voudrais vous dire que le marché public constitue dans la dépense publique de l'État 70% des dépenses budgétaires de l'État. Donc 70% des dépenses publiques de l'État relèvent des marchés publics. Donc ce sont des gros montants, ce sont des grosses sommes d'argent, des grosses masses d'argent.
70%, c'est beaucoup.
70%, oui. Grosses masses d'argent qui nécessitent un regard assez soutenu parce qu'il y a énormément de fraude. Il y a énormément de cas de fraude à chaque étape, comme la procédure vous a déjà été déroulée. Alors, à chaque étape de la procédure ou du processus de passation des marchés publics, il y a des cas de fraude. À l'étape de l'analyse de besoins, parce qu'à l'origine de tout marché public, il y a d'abord le besoin. Et déjà, à cette étape-là, il y a des cas de fraude qui sont souvent signalés et détectés par la Cour des comptes dans ses missions de contrôle. À l'étape de la sélection de l'appel d'offres et la sélection de soumissionnaires, même à l'étape de l'exécution du marché.
Donc, les fraudes sont décelées à tous les niveaux.
À tous les niveaux. Par rapport à la Cour de compte, étant donné les missions qui sont dévolues à la Cour de compte, là, il faudra que je puisse...
Vous expliquez aussi brièvement le mandat de la Cour de compte.
Par rapport aux missions qui sont dévolues à la Cour de compte, d'emblée, j'aimerais d'abord vous dire que la Cour de compte est la juridiction financière instituée dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas deux juridictions financières, c'est la seule juridiction financière. Et la Cour de compte comprend en son sein le siège et le parquet général financier. Ce sont ces deux organes, ces deux composantes qui constituent la Cour de compte et qui ont pour mission, donc la Cour de compte a un pouvoir permanent et général sur les finances de l'État, sur la gestion des finances de l'État, sur la gestion des biens publics et sur la gestion des comptes publics de l'État. Quand je dis État, nous voyons ici le pouvoir central ainsi que les autres démembrements de l'État, c'est-à-dire au niveau des provinces et au niveau des ETD, c'est-à-dire des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le fonds de l'État, toutes les incriminations contre le fonds de l'État, contre l'argent public, relèvent de la compétence de la Cour des comptes. C'est dans ce cadre-là que le parquet général de la République, qui est le ministère public près de la Cour des comptes, donc l'organe de poursuite pour toutes ces incriminations, dans son rôle, dans sa mission d'investigation, dans sa mission de protéger l'ordre public financier, le parquet général financier près de la Cour des comptes, a donc le pouvoir de venir s'asseoir sur tous les actes, sur tous ces cas de fraude que nous venons de décrire ici, pour mener des investigations afin de rétablir les caisses de l'État, afin de rétablir l'ordre public financier troublé. Alors, quelle est l'infraction qui se trouve attachée à tous ces cas de fraude? Le parquet général près de la Cour des comptes poursuit une seule infraction. qui est la faute de gestion.
La faute de gestion.
Voilà. La faute de gestion, c'est ça l'infraction qui relève de la compétence de la Cour des comptes. Et l'infraction pour laquelle le parquet général financier exerce son ministère public en tant qu'organe poursuivant.
Et c'est passible de quelles sanctions ou de quelles peines?
C'est là que se trouve le problème. Mais avant que nous arrivions au régime de peine, je voudrais cadrer cette incrimination par rapport au marché public. La faute de gestion est définie aux articles 129 et 214 de la loi relative aux finances publiques qu'on appelle communément la LOFIP. Cette loi-là donne les cas, les actes qui constituent la faute de gestion. Et vous verrez que dans les actes, donc au tiré 5, la loi dispose que tout avantage procuré à soi-même ou à autrui au préjudice des finances publiques constitue un cas de faute de gestion. Or, toutes les incriminations qui sont liées aux fraudes contre les marchés publics ont pour objectif de procurer soit un avantage à soi-même ou soit un avantage à autrui. On voudrait favoriser un soumissionnaire. On voudrait, dans ce marché-là, avoir un avantage illicite. Donc, tout cela, c'est contraire à cette disposition et c'est au préjudice des finances de l'État. C'est constitutif de l'infraction de faute de gestion. Maintenant, les fautes de gestion ont pour peine une peine d'amende.
Combien bien, c'est selon la tête.
L'amende contre les fautes de gestion est prononcée par le
juge de la Cour des comptes.
La Cour, donc les juges de la Cour des comptes. Cette amende-là ne doit pas dépasser le double du montant du salaire brut annuel de l'auteur de l'infraction. Au fait, nous disons que c'est une amende. Jusque-là, au fait, c'est une peine pécuniaire.
Il n'y a pas de peine d'emprisonnement.
La faute de gestion donne lieu à d'autres incriminations qui, jusque-là, sont poursuivies au niveau de juridiction, de jugement, de droit commun, notamment de détournement de fonds publics, la corruption. En principe, toutes ces incriminations-là, même les détournements, donc toutes les incriminations qui touchent au fond de l'État, relèvent de la compétence de la Cour des comptes. Pourquoi ? Parce que ce sont des incriminations, ce sont des faits qui se commettent avec une grande technicité et avec une grande...
Avec beaucoup d'intelligence.
Avec beaucoup d'intelligence, avec une grande complexité.
Et à votre actif, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir comme fait réprimé ? Les cas dont vous êtes déjà saisi ou les cas qui sont portés devant vous et ont abouti à quelque chose ?
C'est là que se trouve encore le problème. Vous savez que depuis longtemps, la Cour des comptes est restée en veilleuse. Depuis des années et des années. La Cour des comptes n'a pas fonctionné comme il le faut. C'était une Cour des comptes dormante.
Donc depuis lors, elle n'a rien fait, elle n'a rien réprimé jusque-là.
Jusqu'à notre arrivée en 2013, la Cour n'avait prononcé aucun arrêt.
Mais qu'est-ce qu'elle fait depuis qu'elle existe? Qu'est-ce qu'elle peut présenter comme bilan?
Le parquet général pris la Cour des comptes ainsi que le siège existe depuis 1987. La nouvelle loi qui a renforcé le pouvoir de la Cour des comptes n'a été promulguée aussi que vers 2018 finissant. Mais pourquoi tout ce temps il n'y a pas eu d'arrêt? Pourquoi tout ce temps il y a eu ce sommeil? Pourquoi tout ce temps, il n'y a pas eu de poursuite? Je vous donne un cas. En 1987, quand on crée la Cour des comptes, le parquet ne comptait qu'un seul magistrat, le procureur général. Il était seul pour cette abondance de matière et de travail à accomplir. On avait affecté un deuxième au parquet, un deuxième magistrat au parquet général. Mais quelques temps après, il a été réaffecté comme conseiller à la Cour et secrétaire général. Donc, le procureur général est resté seul. Donc, seul, ne pouvant pas garantir la protection de fonds de l'État en ce qui concerne ses missions de ministère public, il est resté pendant 32 ans seul au parquet.
Quelle solution à cette problématique? Encore une fois, on écoute l'avocat général Léon Katanga.
Il n'y a pas d'autre solution que de faire son travail. Et le parquet, à travers l'impulsion du procureur général près de la Cour des comptes, le professeur Kayumba Nkoudi Sultan, le parquet général attend faire son travail conformément à la Constitution et conformément aux lois qui régissent la Cour des comptes et attend appliquer ces dispositions dans toute leur plénitude et toute leur rigueur. C'est ça le travail que nous avons à faire et c'est ça la solution que nous avons à apporter à notre niveau en ce qui concerne la lutte contre la délinquance économique et financière qui a élu domicile dans notre pays depuis des années et des années et qui n'avait pas été poursuivie, ni entamée, ni enrayée, ni diminuée. Parce que le taux ne fait que croître au jour le jour. Donc il fallait que quelque part qu'on commence. Il fallait que quelque part que l'on dise « Fini la récréation de la gabegie financière, fini la récréation des détournements, fini la création de manipuler le fonds de l'État, finit la création des fortunes privées qui sont bâties sur le fonds public. Il y a beaucoup de fortunes privées ici qui sont bâties sur le fonds public, sur l'argent public. L'argent public est sacré. On doit respecter l'argent public. Tout celui qui a pris l'argent public, et vous savez, comme je vous parle de l'argent public, je vous ai dit, quand je vous ai donné les missions de la Cour des comptes, je vous ai dit que la Cour des comptes n'a pas que comme mission de poursuivre toutes les incriminations relatives au fonds de l'État. Mais il y a aussi les biens publics. Il y a des gens qui occupent des maisons de l'État. Nous avons aussi, le procureur général financier a émis des réquisitions d'informations, même auprès de l'ARMP. L'ARMP nous avait transmis un CD qui reprenait pratiquement tous les marchés passés pour les exercices 2016-2017. Donc c'est maintenant que nous allons décortiquer tous ces marchés publics pour déceler les infractions relatives à la faute de gestion.
Nous revenons au juge conseil Emmanuel Fauchy avant d'atterrir.
Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas encourager les systèmes de passation de marché public dans notre pays. C'est malheureux, ça laisse à désirer.
Qu'est-ce qu'il faut à la place ?
Il faut voir les DG comment ils s'enrichissent.
Et qu'est-ce qu'il faut à la place?
Non, mais il faut les changements. Il faut les changements, Dieff.
Oui.
Les changements doivent se faire à tous les niveaux. Il faut les contrôles, il faut l'inspection, il faut la sanction. Oui. Les choses ne doivent pas être là. Non, celui-ci est nommé, il est le fils, le frère de Dirkab. Non, il est l'ami de celui-là. Il est conseiller au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il est le frère du ministre et tout ça. Non, ces choses-là doivent tomber. Lorsqu'on place quelqu'un, lorsqu'on nomme quelqu'un, on le nomme puisqu'il est congolais, puisqu'il est une valeur, il sera important pour le pays, pour faire avancer le pays. Ce n'est pas pour danser aujourd'hui. Les musiciens, ils sont là, ils vont chanter, les gens doivent danser, mais ce n'est pas tout le monde qui doit aller danser à cette musique-là.
Voilà, nous allons conclure.
Il faut les changements, il faut la sanction, il faut le contrôle. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'Inspection générale des finances. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Nous avons la justice. Qu'est-ce que la justice fait? Donc, nous avons besoin des magistrats. Nous avons besoin des gens vertébrés acquis au changement qui sont épris de paix, de justice et de développement. Puisque la justice élève la nation tout entière. La justice n'est pas seulement celle qui est admise au palais de justice. Même partout où nous nous trouvons, il faut que nous puissions appliquer la justice. Que nous puissions bannir les antivaleurs et le pays va s'élever. Il ne faut pas seulement regarder la Cour constitutionnelle, regarder la Cour de cassation et consorts. Partout où nous sommes, nous devons être justes. Et quand nous sommes justes, nous sommes corrects là où nous sommes en train de travailler. Vous allez constater que le pays va s'élever. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le népotisme au contraire. Vous avez suivi qu'il y a eu des traces de corruption et consorts. Les cris, nous les avons entendus. Mais ça a abouti à quoi? Donc il faudrait que nous puissions bannir ces antivaleurs pour aider le pays partout où nous sommes, que la sanction puisse être mise en mouvement.
Ainsi prend fin Droit et Citoyenneté d'aujourd'hui, qui vous a entretenu sur la problématique de la passation des marchés publics en RDC. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.